Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après un week-end marqué par un flot continu d'anonymes venus signer des livres d'or à l'Élysée ou se recueillir sous la pluie devant sa dépouille, la France rend aujourd'hui un dernier hommage à Jacques Chirac. Honneur militaire, minute de silence et service solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris.
Conséquence de la crise des gilets jaunes et d'une mauvaise conjoncture économique, les comptes de la sécurité sociale ont replongé dans le rouge.
Oui, de quoi obliger le gouvernement à repousser à 2023 le retour à l'équilibre promis pour 2019. À l'étranger, nous nous rendrons tout d'abord en Autriche, ou fort d'une large victoire aux élections législatives, mais privé du soutien de son ancien allié à l'extrême droite, le chancelier Sébastien Kurz part en quête de nouveaux partenaires de coalition. Et puis, au Royaume-Uni, le chef de gouvernement n'en démord pas. Au congrès de son parti hier, Boris Johnson a estimé que le meilleur moyen de mettre fin aux divisions était d'accomplir le Brexit le 31 octobre prochain. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Qu'est-ce qu'une société libre? Comment peut-on la défendre sans la faire disparaître? Contre le lent mais sûr détricotage de notre état de droit et l'affaiblissement de nos libertés, la parole d'un avocat, celle de Maître Sureau, qui sera avec nous dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. Après l'immense hommage populaire presque royal, voici venu le temps de l'ultime adieu à Jacques Chirac. Ce matin, la journée a commencé là où elle s'était terminée la veille, aux Invalides, avec tout d'abord une cérémonie familiale privée, suivie d'honneurs funèbres militaires. Le convoi funéraire s'est ensuite ébranlé vers l'église Saint-Sulpice où un service solennel y est célébré depuis midi, avant l'inhumation privée au cimetière voisin du Montparnasse. Alors, à l'exception de quelques absences remarquées, celles en particulier des communistes et des insoumis, mais aussi celle de Marine Le Pen, dont la famille de l'ancien président n'a pas souhaité la présence. Pour le reste, c'est toute l'histoire de la République qui défile depuis ce matin en l'église Saint-Sulpice. Ministre, chef de parti, mais aussi ancien président, qu'il s'agisse de Valéry Giscard d'Estaing, lequel a pourtant toujours considéré que la trahison de son ancien premier ministre avait contribué à sa défaite en 81. Mais aussi Nicolas Sarkozy, bien que là encore la trahison ait été au cœur de leurs relations tumultueuses, notamment lors de l'élection présidentielle de 95, et enfin François Hollande, qui avait lui été un adversaire déterminé du leader de la droite au point d'aller le défier dans son fief corrézien. Bref, un hommage quasi unanime de la classe politique et qui, depuis jeudi dernier, n'aura jamais cessé de vanter les qualités humaines de Jacques Chirac à défaut de son bilan. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'église Saint-Sulpice où un service solennel a donc débuté il y a une vingtaine de minutes.
Oui, l'église Saint-Sulpice où le cercueil de Jacques Chirac est arrivé il y a une demi-heure maintenant, enveloppé du drapeau tricolore et porté par quatre de ses anciens officiers de sécurité à l'Élysée. Le cercueil qui a traversé le parvis sous les applaudissements d'une foule massive venue rendre hommage à l'ancien président. Dans cette foule, la corrézienne Maryse, particulièrement émue.
Pour moi, c'est une page qui se tourne. Il nous a tellement apporté, en tout cas à moi. Je pense que nous étions protégés avec lui. Avec De Gaulle, on a perdu beaucoup et maintenant c'est lui.
Un état d'esprit partagé par tous dans cette foule en deuil quasi unanimement vêtue de couleurs sombres où l'on voit des jeunes et des moins jeunes venus prendre le temps du recueillement.
Jacques Chirac a été vraiment un immense président, quelqu'un qui restera dans l'histoire, dans notre cœur aussi, dans mon cœur.
Je ne connais pas d'autres chefs d'État ou hommes d'État qui ont eu le même comportement. Donc, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les grades, il ne faisait pas de distinction, donc c'est unique.
C'est un bon président. Et moi, j'y penserai toujours.
Dès 10h ce matin, les personnalités politiques de France et du monde ont progressivement pris place dans l'église. 2000 invités, une centaine de personnalités étrangères. Vladimir Poutine pour la Russie, Sassou Nguesso pour le Congo, Bill Clinton chez les Américains, Saad Hariri côté libanais et évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de politiques français. L'ancien ministre de Jacques Chirac, Jean-Louis Borloo par exemple.
Jacques Chirac, c'était un homme bon dont le combat a toujours été de lutter pour les oubliés. Il y a deux fondations, Fondation Chirac pour la paix et la reconnaissance des cultures dans le monde, et puis la fondation Jacques Chirac pour lutter contre le handicap. Ça résume sa vie.
Et cette cérémonie en cours donc pour saluer le parcours hors norme de Jacques Chirac, ses 40 ans de vie politique, 40 ans qui seront également salués cet après-midi par une minute de silence dans les administrations et les écoles. Elle est prévue à 15h.
Merci Rosalie Lafarge en direct de l'église Saint-Sulpice ainsi qu'à Raymond Alboui pour les moyens techniques. Alors outre la présence de très nombreux acteurs de la politique nationale, compagnons de route, on vient de l'entendre, comme anciens adversaires, plusieurs dizaines de dirigeants étrangers ont également participé ce matin à l'hommage rendu à Jacques Chirac à Paris. Autant de participants, Bertrand Galichet, qui reflète au fond tout autant la politique étrangère du président défunt que ses amitiés personnelles.
Beaucoup d'Africains ce matin à Paris, des dirigeants en exercice ou d'anciens présidents, une présence qui témoigne de l'attachement de Jacques Chirac à l'Afrique. Parmi eux, l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, le malien Amadou Toumani Touré, mais aussi l'actuel numéro 1 congolais Denis Sassou Nguesso, un autocrate au pouvoir depuis 2 décennies. Des relations politiques dans la lignée de la France-Afrique héritée du gaullisme. Le premier ministre libanais Saad Hariri est venu. Les deux familles sont restées très liées après l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie. Très emblématique également la présence de Vladimir Poutine, l'un des chefs d'État les plus proches de Jacques Chirac, lui-même russophile. Ensemble, ils s'étaient opposés à la guerre en Irak en 2003. Le président russe était venu l'année suivante au 60e anniversaire du débarquement en Normandie, de même que Gerhard Schröder, également présent, un trio que réunissait une forme de complicité au début des années 2000. Ce matin, les institutions européennes sont représentées par Jean-Claude Juncker, qui s'est montré très affecté par la mort de Jacques Chirac. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est venu au nom de l'Allemagne, mais pas la chancelière Merkel. Une présence européenne hétérogène, du premier ministre hongrois Viktor Orban au président italien Sergio Mattarella. Jacques Chirac, on le sait, s'était tardivement converti à l'Europe et il en était devenu un défenseur ardent. Pour les États-Unis, enfin, pas de représentation politique de haut niveau, mais l'ancien président Bill Clinton a fait le voyage.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer cet ultime hommage à l'ancien président invité de la rédaction aujourd'hui, Laurent Guimier, journaliste et auteur de Jacques Chirac, Une vie pour la France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Première question monsieur Guimier. Comment expliquez-vous aujourd'hui que cette espèce finalement de nostalgie générale qui semble balayer au fond toutes les faiblesses d'un homme qui, il faut le rappeler, n'aura quand même jamais été aussi populaire qu'à mesure qu'il s'est éloigné du pouvoir jusqu'à sa disparition?
Ben, vous venez de le dire, c'est-à-dire que l'éloignement du pouvoir génère, j'allais dire de façon quasiment arithmétique, une popularité grandissante. Et Jacques Chirac est le premier président, finalement, à voir célébrer ses obsèques aussi loin après son départ de l'Élysée. 4520 jours, alors que De Gaulle, Pompidou et Mitterrand sont morts quelques mois simplement, ou malheureusement quelques jours pour Pompidou, après leur départ de l'Élysée. Après, vous avez aussi évoqué le terme de nostalgie. Chirac est sans doute le dernier président du XXe siècle, un président d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux, qui pouvait, notamment par l'absence aussi peut-être de cette accélération des polémiques politiques, traverser beaucoup de polémiques, beaucoup d'ambiguïté parfois, beaucoup aussi de changements de cap, sans que soit à la minute ou jour après jour rappeler ses contradictions. Il est un président qui a pu assumer facilement des contradictions, et puis il est resté longtemps aussi au pouvoir, mais je pense aussi qu'il incarne par son passé, puis parce qu'il est resté 40 ans au pouvoir, cette France un peu noir et blanc, et qui peut-être aussi était une France où les questions de communautarisation de la société, donc de fracture visible de la société, pouvaient être encore gommées par un discours politique qu'il savait magnifiquement manier.
Question d'Anne Fauquemberg.
Alors il y a 3 anciens chefs d'État au premier rang, à l'église Saint-Sulpice, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Paradoxalement, c'est avec le socialiste François Hollande que Jacques Chirac avait gardé les meilleures relations. Il y a une photo où on les voit très complices dans votre livre.
D'abord parce que François Hollande n'a jamais été un héritier potentiel de Jacques Chirac. Giscard, il s'était affronté après avoir ensemble gravi les marches du pouvoir en 1974, mais ils se sont affrontés pour le pouvoir. Nicolas Sarkozy, c'est un peu différent, c'est l'héritier rebelle, c'est aussi le rescapé de ces années Chirac, parce que Jacques Chirac a éliminé consciemment, pendant 2-3 décennies, plusieurs générations de dauphins potentiels. Et puis Nicolas Sarkozy a résisté, a tenu. Et c'est toujours compliqué, j'imagine, lorsqu'on est homme politique, de pouvoir s'imaginer voir un dauphin perpétuer votre œuvre. Alors que pour François Hollande, c'est un peu différent. D'abord, il y a ses racines corréziennes. Faut pas surinterpréter ces racines corréziennes, mais enfin elles sont réelles de part et d'autre, même si elles sont familiales d'abord pour Chirac et plus d'élections pour François Hollande. Et puis aussi, il y a cet éloignement du pouvoir, c'est-à-dire que Chirac et Hollande n'ont jamais été en lice pour le même poste.
Alors, c'est un livre d'images, hein, quasiment, oui. Plus que de
c'est
texte.
C'est un album de photos.
Voilà, hein. Ouais. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de documents. Fallait donner à voir le style, le corps de cet homme particulièrement énergique.
Oui, le corps, oui. Parce que, bon, moi, je l'ai suivi en tant que reporter dans les années 90, mais c'est vrai qu'il est apparu au grand public à la fin des années 60. Il était trentenaire à l'époque, et c'est vrai qu'il a détonné assez rapidement, y compris physiquement, dans cette allure, du technocrate en même temps capable d'aller dans les fermes corréziennes pour conquérir le pouvoir. Et cette question du style a été importante, je pense, aussi dans son ascension politique, dans cette idée qu'il prolongeait le gaullisme ou le pompidolisme, mais avec une figure esthétique assez différente.
Alors, il y a des images aussi qu'on avait oubliées. Une photo avec Simone Veil, tous les deux fument une cigarette. On est en 74. Elle raconte dans son autobiographie, Simone Veil, que Jacques Chirac, alors Premier ministre de VGE, c'était pas vraiment sa tasse de thé, hein, la bataille de l'IVG, mais politiquement parlant, c'est ce que vous expliquez, il s'est exécuté parfaitement.
Totalement. C'est-à-dire que je pense que la question de l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse heurtait beaucoup de ses convictions profondes. Il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, pour qui cette question était cardinale, essentielle, et à tel point que c'est Simone Veil qui portait ce combat. Mais Jacques Chirac, parce qu'il était loyal, et s'est totalement rallié à cette idée, et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le fait qu'il a de tout son poids politique pesé pour que cette légalisation soit une réalité. Mais c'est vrai que ça n'était pas du tout dans ses convictions. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire aujourd'hui est assez cruelle avec un Giscard, on le voit, hein, dans les études d'opinion, qui est l'homme qui a transformé aussi la société sur quelques réformes emblématiques, que ce soit le vote à 18 ans ou l'interruption volontaire de grossesse.
Et on terminera par ces mots. Merci Laurent Guimier d'avoir répondu à notre
Merci
invitation.
À vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jacques Chirac, une vie pour la France. Merci également à Anne Fauquemberg. L'heure du jugement pour l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoise, l'ex-garde des Sceaux, jugé devant la Cour de justice de la République pour violation du secret professionnel après avoir transmis au député Thierry Soler des éléments de l'enquête qui le visait pour fraude fiscale, sera fixé sur son sort ce soir. Jeudi dernier, l'accusation a requis 1 an de prison avec sursis. Rappelons que les arrêts de la Cour de justice de la République, souvent critiqués pour la clémence de ses décisions, ne sont pas susceptibles d'appel. C'est en quelque sorte le revers de la médaille des mesures d'urgence, CSG réduites pour certains retraités et exonération des heures supplémentaires concédées pour calmer la colère des gilets jaunes ou quand la Sécu se retrouve aujourd'hui à payer la facture. Selon les chiffres quasi définitifs du projet de budget que le gouvernement doit dévoiler aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale atteindra 5,4 milliards d'euros cette année et un peu plus de 5 milliards l'an prochain, obligeant ainsi le gouvernement à repousser à 2023 le retour à l'équilibre promis pour 2019. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors précisons que la conjoncture économique moins bonne qu'espérée a aussi contribué à faire replonger dans le rouge les comptes de la Sécu. Toujours est-il que les engagements pris ici ou là se traduiront donc par des restrictions ailleurs ou comment mettre des carrés dans les ronds.
Oui, il y a un an, tout juste, Agnès Buzyn et Gérald Darmanin se félicitaient que les comptes de la sécurité sociale fussent à deux doigts de revenir dans le vert, mais la crise des gilets jaunes, vous l'avez dit, et des performances économiques bien moins bonnes qu'attendues sont venues quasi immédiatement replomber ces comptes, et c'est principalement sur la branche retraite que pèsent notamment les mesures gilets jaunes, des mesures non compensées par le budget de l'État, les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires notamment, ainsi que la réduction de la CSG pour certains retraités. Conséquence, ce budget 2020 de la Sécurité sociale présenté ce matin s'apparente à un tour de force. Il prévoit de continuer à faire des économies dans un contexte de déficit aggravé, de recettes en moins, de plans pour les urgences, pour la psychiatrie et pour les EHPAD. Alors ces économies, elles porteront encore une fois cette année sur l'industrie du médicament qui devrait contribuer à hauteur de 920 millions d'euros via principalement des remises de prix. Les hôpitaux sont priés également d'améliorer, je cite, leur performance interne, c'est-à-dire de continuer à développer les soins en ambulatoire ou optimiser leurs achats. Les médecins devront maîtriser leurs prescriptions d'antibiotiques notamment, ainsi que leurs actes. Au total, l'ONDAM, c'est-à-dire la hausse prévue des dépenses d'assurance maladie sur l'année, devra être contenue à 2,3%, ce qui signifie 4,2 milliards d'euros d'économies attendues donc pour le secteur de la santé. Les allocations familiales, les aides au logement sont quasi gelées. Les pensions de retraite retraites supérieures à 2 000 euros seront revalorisées de 0,3%, soit bien moins que l'inflation. L'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse seront revalorisés en revanche au 1er novembre pour la première, dans un an pour la deuxième.
Merci Anne-Laure Chouin. EDF a annoncé aujourd'hui que la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, la plus ancienne de France, interviendrait le 22 février 2020 s'agissant du premier réacteur et le 30 juin de la même année pour le second. EDF qui sera indemnisé par l'État à hauteur de 400 millions d'euros pour la fermeture anticipée de cette centrale. Un nuage de questions toujours et encore à Rouen où après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol classée Seveso, la population s'interroge sur la réalité du retour à la normale défendu par les autorités de la préfecture. Quand Gérald Darmanin assure que l'action des pouvoirs publics est à la hauteur de la gravité de la situation, le Premier ministre promet une transparence totale sur les analyses de la pollution engendrée par la catastrophe. Édouard Philippe, toujours lui à l'unisson de plusieurs ministres, a condamné hier les discours nauséabonds entendus la veille lors de la convention de la droite organisée par les proches de Marion Maréchal, convention marquée notamment par une sortie très dure du polémiste Éric Zemmour et retransmise dans l'État en intégralité par LCI. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
La chaîne du groupe TF1 fait aujourd'hui son mea culpa et reconnaît une erreur d'appréciation.
Oui, l'essayiste Éric Zemmour s'est particulièrement fait remarquer ce week-end avec le discours musclé qu'il a tenu en ouverture de la convention dite de la droite organisée par les amis de Marion Maréchal. Il a parlé d'une guerre d'extermination actuellement menée, selon lui, contre l'homme blanc, catholique et hétérosexuel. Il a largement repris la thèse du grand remplacement de l'écrivain controversé Renaud Camus. « Vous avez raison d'avoir peur », a-t-il lancé en direction de l'assistance. Et puis il s'en est pris nommément à l'islam, dénonçant les immigrés colonisateurs et une islamisation de la rue. Tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam, a-t-il encore ajouté. Ce discours retransmis en direct et en intégralité, vous l'avez dit, par la chaîne Tout Info de TF1 LCI, a provoqué les récriminations d'une partie des journalistes de la rédaction. LCI, quelques heures plus tard, a reconnu une erreur d'appréciation. Et puis, plusieurs membres du gouvernement sont également montés au créneau. La porte-parole Sibeth Ndiaye, ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe, qui a évoqué un discours nauséabond. Ce discours d'Éric Zemmour, particulièrement virulent, intervient quelques jours seulement après sa condamnation définitive par la justice pour provocation à la haine religieuse. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 17 septembre dernier. Il a été condamné pour des propos tenus en 2016 dans l'émission C'est à vous sur France 5, où il parlait d'invasion qui durerait selon lui depuis 30 ans et de lutte dans d'innombrables banlieues pour islamiser le territoire. On peut imaginer que cette nouvelle diatribe pourrait avoir pour visée, malgré les risques, de capter encore un peu plus l'attention médiatique, sachant que ses propos seraient également largement repris sur les réseaux sociaux.
Merci Stéphane Robert. En Autriche, si le très large succès enregistré hier par le Parti conservateur lors des élections législatives anticipées constitue non seulement une revanche appréciable 4 mois après la chute de sa coalition avec l'extrême droite, mais plus encore ouvre désormais la voie à une reconduction du jeune chancelier Sébastien Kurz. Pour autant, le plus dur reste probablement à venir. L'enfant prodige de la politique autrichienne, dont la conquête du pouvoir en 2017 avait nourri les comparaisons avec la stratégie suivie par un certain Emmanuel Macron, a beau avoir creusé la distance avec tous ses concurrents, il devra pour revenir au pouvoir nouer de nouvelles alliances. Or, aucun parti ne semble à présent pressé de lui tendre la main. Dès hier soir, l'extrême droite a fait savoir qu'elle se voyait siéger dans les rangs de l'opposition. Les sociaux-démocrates arrivés en deuxième position ne se montrent eux pas particulièrement enthousiastes à l'idée de partager le pouvoir avec la droite, qu'ils accusent d'une dérive populiste. Reste donc a priori une seule et dernière option pour éviter celle suicidaire d'un gouvernement minoritaire, une alliance avec les Verts. Sauf que le parti écologiste, qui avec 14% des voix est effectivement en position de former une majorité avec Sébastien Kurz, n'a pas l'intention de faire de cadeau au chef des conservateurs, environnement, mais aussi économie, sans oublier l'immigration sur le plan programmatique. Le gouffre entre les deux formations politiques sera difficile à combler. C'est un reportage à Vienne, signé de notre envoyé spécial Louise Baudet.
Ils ont partagé hier soir l'ivresse de la victoire. Mais au-delà, quoi de commun entre les conservateurs et les Grünen? Le turquoise, couleur de Sébastien Kurz, est-il soluble dans le vert? L'électorat écolo s'interroge.
C'est dangereux, on ne peut pas s'allier avec ce monsieur Kurz, c'est impensable. Dangereux, mais pour qui? C'est une question difficile. Les Verts réussiront peut-être à le maîtriser. De ce point de vue, ça peut être positif d'entrer dans une coalition.
La coalition, une habitude en Autriche où le scrutin proportionnel pousse au compromis, mais pour Ulli, pactiser avec Sebastian Kurz est tout simplement impossible.
La journée de travail à 12 heures, les coupes budgétaires dans le social, la discrimination des femmes, il mène toute la politique contre laquelle je me bats.
Dans le très bourgeois premier arrondissement de Vienne, ce sont les écologistes qui effraient.
C'est un scandale. Ils ont distribué des préservatifs pendant la campagne. Ça, c'est vraiment très bas. Pour moi, ce n'est pas un parti. C'est impossible.
Impossible, pas pour tout le monde. Une partie des conservateurs en a assez de l'extrême droite, de ses outrances et de ses frasques.
L'Autriche, ces dernières années, a évolué dans le bon sens, mais on peut y arriver sans l'extrême droite. Je préférerais une coalition avec les Verts et les néolibéraux.
Oui, pour que ça reflète toutes les tendances de la société.
Encore faut-il qu'au sommet, les chefs politiques s'entendent et vu la froideur de leurs échanges, c'est loin d'être gagné.
4 ans après l'éclatement du Dieselgate, le géant automobile Volkswagen affronte à partir d'aujourd'hui le premier grand procès de consommateurs en Allemagne, procès regroupant des centaines de milliers de clients qui tous demandent réparation pour leur voiture diesel truquée. Alors l'audience qui doit s'étaler sur plusieurs années s'est ouverte ce matin. Concrètement, les juges vont devoir trancher une cinquantaine de points, mais la question principale sera de déterminer si le constructeur a causé un préjudice et agi de manière contraire à l'éthique. Précisons par ailleurs que le jugement n'entraînera pas directement un remboursement puisqu'il reviendra à chaque consommateur enregistré de faire valoir ses droits individuellement. En plein chaos politique au Royaume-Uni, les conservateurs le répètent comme un mantra. Boris Johnson en tête, réalisons le Brexit. Le Premier ministre qui n'en démord pas, la sortie de son pays de l'UE adviendra le 31 octobre. Get Brexit Down, ce slogan s'affiche donc en grandes lettres dans le centre de conférence de Manchester où depuis hier et jusqu'à mercredi, les Tories sont réunis en congrès pour leur grand messe annuelle avec l'objectif non seulement de tenter de trouver une position commune sur la sortie de l'Union européenne, mais aussi de barrer la route à la gauche. C'est une correspondance signée Antoine Gignot.
Même ses anciens rivaux comme Michael Gove le martèlent à la tribune. Boris est courageux, déterminé, il aime ce pays et il tient ses promesses. Dans la salle, William, banquier à la City, applaudit mollement. Il n'apprécie pas particulièrement Boris Johnson, mais il soutient le Premier ministre par peur de voir les travaillistes prendre le pouvoir.
Le plus gros risque, ce serait un gouvernement travailliste avec Jeremy Corbyn. Il y aurait des conséquences sur l'économie à long terme, et l'incertitude risquerait de nous coûter aussi cher, voire plus cher qu'un Brexit dur.
Ce Brexit dur, cette sortie sans accord de l'Union européenne que le gouvernement laisse entrevoir, certains s'y résignent, beaucoup la réclament, c'est la seule issue possible à la crise, explique Anthony Hansen, ancien gestionnaire de fonds du Lincolnshire.
Si ça continue plus longtemps, il va y avoir de la violence. Si vous êtes à Londres, vous ne vous en apercevez pas, mais à la campagne, ça a déjà commencé.
Une violence qui s'affiche jusqu'à l'entrée du Congrès conservateur sur l'un des ponts de Manchester. Des activistes ont accroché, en guise de comité d'accueil, des mannequins pendus par des nœuds coulants.
Et puis j'ajoute que si Boris Johnson priait hier de dire s'il envisageait sa démission, a de nouveau répondu que non, il pourrait connaître toutefois de nouveaux déboires. Cette semaine, en l'occurrence, les députés de l'opposition pourraient organiser un vote de défiance contre le gouvernement. Enfin, le patron des travaillistes, Jeremy Corbyn, doit lui réunir aujourd'hui les chefs de l'opposition pour convenir d'une stratégie pour forcer Boris Johnson à demander dès cette semaine un délai pour le Brexit. Les Afghans étaient appelés à voter ce week-end pour le premier tour d'une élection présidentielle menacée tant par la fraude que l'abstention, le tout dans un climat de très forte insécurité. Les talibans avaient en effet multiplié les avertissements pour dissuader les électeurs de se rendre aux urnes et au final, les attaques des insurgés auront fait au moins 5 morts et 37 blessés. Alors au regard de ce bilan malgré tout limité, mais aussi parce qu'ils auront échoué à empêcher la démocratie de s'exprimer, ce premier tour de scrutin constitue sans nul doute une défaite pour les talibans. Pour autant, le taux de participation à ces élections s'annonce particulièrement bas et pas uniquement parce que que la population a pu avoir peur des menaces proférées ces dernières semaines, mais aussi parce que bon nombre d'électeurs ont perdu tout espoir que leurs dirigeants améliorent leurs conditions d'existence. Rappelons que le futur chef de l'État prendra la tête d'un pays en guerre où plus de la moitié de la population vit actuellement avec moins de 2 dollars par jour. Les résultats définitifs de ce premier tour de scrutin sont attendus le 7 novembre prochain. Près de 25 000 personnes ont manifesté hier à Moscou pour dénoncer les poursuites judiciaires visant plusieurs participants au mouvement de contestation électorale qui a secoué la capitale russe cet été, mais aussi pour protester contre l'exclusion de candidats de l'opposition des récentes élections locales. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays, avec un ciel couvert et pluvieux sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Partout ailleurs, les nuages alterneront avec des éclaircies de plus en plus marquées. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.